à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bienvenue dans une nouvelle émission de À la découverte de la création sonore et radiophonique. Après notre reprise le mois dernier, je vous propose de continuer à découvrir la série qui mêle le documentaire et la fiction, Curriculum Futurae, une série de Sébastien Dissonner. À l'heure de l'ubérisation, de la robotisation des tâches et des algorithmes auto-apprenants, un père trentenaire, un brin flippé, s'inquiète de l'avenir professionnel de ses jumeaux de 5 ans. À la rencontre de spécialistes de tous bords, il mène l'enquête sur les scénarios futurs du travail. Nous avions écouté les deux premiers épisodes, « Mes enfants, Hubert et moi » et « Algorithme Mélodie » lors de l'émission du mois dernier. Et ce soir, je vous propose donc d'écouter le troisième et le quatrième épisode. Et on commence donc avec le troisième, avec Manuel du travail libéré, donc toujours de Stéphane Dissonner dans cette série Curriculum Futurae.
Le centre vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae.
N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Un podcast de Sébastien Dissonner à la recherche du travail de demain. Oui, alors je crois que j'ai trouvé un début de projet professionnel pour mes enfants.
Voilà des milliers de soldats de lapins. Ils contrèrent Tortue et Batman.
Je sais, au début on pourrait croire que c'est un simple jeu d'enfant.
Les gardes du château des lapins.
Mais en fait, ils sont déjà en train de travailler.
Bienvenue dans la piscine de l'air.
Là. Ils viennent d'inventer un concept.
La machine, c'est pour faire une piscine de lait de vache.
Tu crois que les gens ils pourraient être intéressés par une piscine avec du lait?
Bah oui, j'adore. Pour se mouiller et boire.
Bon, apparemment, ils ont fait une étude de marché. Hein. J'ai essayé d'obtenir les plans de leur machine et de comprendre comment ça fonctionnait.
Donc, la queue de la vache sert de robinet et le lait sort par les cornes, c'est ça?
C'est assez sophistiqué. Hein.
Les oreilles.
Ah, ils parlent les oreilles. Pour remplir la piscine.
Ils n'ont pas peur des nouvelles technologies. Là.
Non, eux, ils n'ont pas peur des nouvelles technologies, apparemment.
Au début de temps, ils sont dans les cyborgs quasiment.
Quoi. Voilà, cyborgs domestiques et
ouais,
tout.
Ouais, ouais, ouais.
Comme dit mon ami Vincent...
Ils sont déjà un pas dans l'avenir, là. Ils sont beaucoup plus loin que nous, là, déjà.
Une piscine de lait de vache modifiée. Pas sûr que j'arrive à convaincre ma conseillère du futur avec ça. Vous trouvez peut-être que tout ça devient vraiment trop absurde? Eh bien, c'est aussi ce que pense mon amie Sybille du travail en général.
Si tu dézoomes un peu, tu te dis, mais en fait, le concept même du travail, quelque part, c'est absurde en fait. Moi, si je devais militer, je militerais plutôt pour la fin du travail.
Pour la fin du travail?
Oui.
Et comment on survit alors?
Peut-être qu'on pourrait réinventer autre chose.
Ah ouais? Tu verrais quoi, toi?
Bah écoute, je vais plutôt te poser la question si tu me dis que t'es en train de...
De réaliser un podcast sur la question? Merci Sybille de me confier une tâche aussi simple. En tout cas, c'est l'occasion de se débrancher, le temps d'un épisode. Se débrancher des trois scénarios de Dominique Méda, on la retrouvera dans l'épisode suivant. Mais surtout, se débrancher de l'obsession du travail. Tiens, à ce propos, je vais éteindre mon smartphone... Bye bye les notifications de ma conseillère du futur, ça me fera des vacances. Inventer une alternative au travail. Mais pour commencer, récapitulons où on en était. L'épisode précédent examinait le scénario de l'automatisation du monde. avec la philosophe Antoinette Rouvroy, on en était venu à la conclusion que la technologie devrait nous libérer du temps au lieu de nous en prendre toujours plus. C'est aussi ce que pensait en son temps un des principaux penseurs du travail.
Marx a imaginé dans un texte qui n'est pas dans le Capital, mais qui est dans les textes de préparation au Capital.
Ça, c'est le philosophe Marc Hunyadi.
Qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « Fragments sur les machines ». Il a imaginé, dans une espèce de fulgurance anticipatrice, que tout ce qui concerne la reproduction matérielle de la société, donc en gros tout ce qui concerne le travail économique, la création de richesses, serait automatisé. Ce qui pour lui était une très bonne nouvelle, parce que s'il n'y a plus besoin de travailleurs pour travailler, il n'y a plus personne à exploiter. C'est aussi simple que ça. Et donc, il voyait ça d'un très bon œil. Il disait, au fond, voilà, c'est l'automatisation, en fait, va permettre de réaliser l'utopie du travail libéré.
Le travail libéré, tiens, tiens. C'est peut-être une piste, ça, pour mon scénario de la réinvention du travail. Mais avant d'y revenir, j'ai demandé à Marc Hunyadi si on ne pouvait pas, je ne sais pas, moi, comme le disait mon ami Sybille, simplement mettre fin au travail.
Notre existence ne nous est pas donnée, notre existence ne va pas de soi. On n'est pas juste posé là et puis on peut se nourrir, se protéger. Pas du tout. Pour se nourrir, pour se protéger, pour vivre, il faut faire quelque chose. Se faire quelque chose, Marx l'appelle le travail. C'est le travail dans son sens le plus général.
Et c'est vrai que rien ne vaut ce bon vieux Karl Marx pour mettre le doigt là où le travail fait mal dans nos sociétés capitalistes.
Le problème étant que sous le régime capitaliste, industriel, eh bien, ce travail a été réduit extraordinairement. Et au fond, ce n'était plus du tout un travail qui servait la vie, c'est devenu un travail qui servait l'économie. Et chaque individu était au fond aliéné à un système qui l'exploitait, qui exploitait sa vie à lui au profit du système. Mais ce qui gouverne secrètement, si vous voulez, toute cette analyse de l'aliénation capitaliste, c'est bel et bien cette idée d'un travail libéré.
Dans cette conception du travail libéré, le travail est enfin tel qu'il aurait dû toujours être, chez Marx en tout cas, l'épanouissement total de l'être humain. Mais alors à quoi ça ressemble ce travail libéré? Est-ce qu'on en est si loin? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on peut s'en inspirer?
Chez le tout jeune Marx, là, on est en 1843, donc il a 25 ans, et il écrit un texte extraordinaire parmi des notes de lecture qui concernaient autre chose. Tout d'un coup, manifestement, il a une intuition, il a une espèce de fulgurance géniale, et il écrit une page où il imagine ce que serait que le travail libéré. Il commence ce texte en disant « Supposons que nous produisions comme des êtres humains ».
Supposons que nous produisions comme des êtres humains.
Puisque ce travail ne s'effectue qu'en tant qu'humain et non pas en tant que serviteur de tel ou tel système économique, féodal ou capitaliste, eh bien, ce sera un travail authentiquement humain, donc ce sera un travail libéré. Donc c'est une supposition. Il se rend bien compte que ce travail n'a pas existé. Peut-être n'existerait-il jamais. Ce n'est pas une observation qu'il fait, puisque ce travail libéré, on ne l'a pas sous les yeux.
Notre production serait autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre.
Au lieu que l'ouvrier, le travailleur, s'épanouisse, encore une fois, on le découpe en quelque sorte comme une tranche de salami, on ne prend qu'une seule partie de ses compétences, qui sont en général des compétences musculaires, tout simplement, donc des compétences que toute personne peut avoir, et on l'exploite au maximum. Le critère, ce n'est pas la nature du travail, le critère, c'est la personne elle-même, l'individu lui-même, c'est-à-dire ce qui l'épanouit. Et dans un texte célèbre, il dit « Moi, je vais être chasseur le matin, cueilleur l'après-midi, philosophe critique
c'est
le soir. »
Le matin, pêcher l'après-midi, m'occuper d'élevage le soir, m'adonner à la critique après le repas du soir. Selon que j'ai envie, sans jamais devenir chasseuse, sans jamais devenir pêcheuse, bergère ou critique.
« pouvoir s'épanouir dans tout. Mais pourquoi pas être poète, agriculteur, bricoleur, que sais-je. Tout ça doit contribuer à cet épanouissement sur toute la gamme de ses propres possibilités. Mais les possibilités de l'individu, c'est l'individu qui les définit. Une chose importante à dire, c'est que, contrairement à toutes les balivernes qu'on peut dire sur le marxisme, si vous voulez, tel qu'il s'est réalisé, qu'il est nivelant, etc., c'est tout le contraire. Marx est le penseur le plus individualiste de toute l'histoire de la tradition occidentale. Mais, évidemment, ce n'est pas un individualisme comme on le connaît nous, l'individualisme libéral, où chacun est dans sa bulle, etc. Pas du tout. C'est un individu épanoui dans toute la gamme des relations avec les autres. Donc, c'est la figure d'un individualisme relationnel, on pourrait dire, puisque le but ultime, au fond, c'est le travail libéré sous la forme de l'association libre des travailleurs. Eh bien, au fond, c'est les travailleurs qui choisissent leur travail, tout simplement. Et je dirais même plus, leurs travaux. Dans une société telle que Marx l'imagine, ben, on fait ce qui peut satisfaire l'existence même. C'est ça son critère.
Mais bon, ce travail libéré chez Marx, c'est quand même une sorte d'utopie. Enfin, ce n'est pas comme ça que dirait Marc Hunyadi.
Ce n'est pas véritablement une utopie, vous voyez, c'est une fiction productive, au sens que c'est une fiction qui nous permet de nous orienter.
Et en même temps, cette fiction pourrait ressembler à quelque chose de beaucoup plus concret, dont on parle énormément aujourd'hui.
Édition spéciale.
L'allocation universelle.
1er janvier 2035.
Ou revenu de base.
C'est officiel.
Ou dividende social.
L'allocation universelle est officiellement adoptée en Belgique.
Son adoption dans un futur proche en Belgique, c'est une fiction ? Eh bien, pas forcément, selon une publication prospective de Natacha Dupont, qui examine l'impact de l'allocation universelle en Belgique dans un futur proche.
Que se passe-t-il en 2035 ? Après perception de ce revenu, qu'est-ce que le citoyen va changer dans son rapport au travail ? Je m'appelle Natacha Dupont, j'ai 46 ans et donc actuellement je suis collaboratrice auprès des chefins écolos à la ville de Tournai.
Alors déjà, comment faut-il dire allocation universelle, revenu de base, dividende social ?
Oui, en fait, il y a plusieurs dénominations. Je pense que chaque penseur qui a établi un modèle et qui a voulu détailler sa pensée et sa façon de concevoir l'allocation universelle, lui a donné un nom différent.
Et cette idée d'allocation universelle s'est apparue quand ?
On retrouve les premières traces en 1516 avec Thomas More. Donc lui, son idée, c'était de donner un revenu pour diminuer le taux de criminalité.
Attendez, Thomas More, c'est pas celui qui a inventé l'idée de l'utopie ? Donc c'est bien ce que je pensais, l'allocation universelle est utopique.
Pour certaines personnes, c'est une utopie. Pour moi, ça ne l'est pas. Et pour les penseurs qui ont mis au point des modèles réalisables dans nos pays, ça n'est pas une utopie.
Mais c'est un modèle social, un modèle de gauche.
Mais ça peut être de droite aussi. Donc moi, j'ai plus travaillé le revenu de base de Philippe de Feit.
Rappelons que Natacha Dupont travaille pour Écolo, le parti de Philippe de Feit.
Et je me suis intéressée au dividende social de Georges-Louis Boucher.
Là, on est chez les libéraux. À droite, donc.
Le modèle de Philippe de Feit est quand même un modèle de gauche. Il garde tout un système assurantiel à côté de ce qu'il appelle ce revenu socle. Et donc, lui prévoit tout un système assurantiel pour faire face aux accidents de la vie. Donc là, quand on a un système assurantiel, ça veut dire qu'il y a encore quand même un système de sécurité sociale qui est encore existant et où la... Tous les citoyens participent, la société est toujours là pour aider le citoyen en cas d'accident, de pépin dans la vie. Donc la personne qui perdrait son emploi tout en bénéficiant de son revenu de base pourrait bénéficier d'une allocation. La personne qui connaît à un moment de sa vie des gros problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler pourrait bénéficier d'une aide. Donc ce modèle-là, moi je le situe à gauche. À droite, on a le modèle de Georges-Louis Boucher, très libéral, puisqu'il propose de donner un montant plus élevé aux citoyens, un montant qui avoisine les 1 000 euros. En tout cas, en 2018, c'était 1 000 euros. Donc, il propose de donner ce montant-là aux citoyens, et puis le citoyen en fait ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que le citoyen va devoir prendre l'initiative et va donc devoir avoir la réflexion et l'intellect nécessaires pour s'assurer contre les accidents de la vie.
Cette idée d'allocation universelle est un peu sulfureuse, non ? Alors, c'est quoi les principales critiques que lui adressent ses opposants ?
Leurs critiques se rejoignent, généralement, vis-à-vis d'un point assez essentiel. Pour eux, donc, ils voient la disparition des services publics. Et leur grande inquiétude, c'est aussi la valeur travail. Donc, des sociologues comme Matteo Alalouf ou Dominique Méda. Donc, leur sentiment, c'est qu'on ne va plus se battre pour des conditions de travail acceptables. Donc, eux voient ça comme la fin d'un conflit social, donc comme une menace.
Ce qui donne, avec les mots de Dominique Méda elle-même...
Plus généralement, ce qui me gêne dans le scénario du revenu universel ou de l'allocation universelle, c'est que très vite, ça nous amène à remettre en cause nos systèmes de protection sociale, qui sont des systèmes collectifs, socialisés. Et je pense qu'évidemment, ce serait extrêmement grave. Donc, je suis plus en faveur de mécanismes qui permettent, évidemment, de donner un revenu minimum à chacun lorsqu'il est en difficulté. Je serais plus, si vous voulez, pour une forme de droit à l'emploi.
Mais je crois qu'on n'en a pas encore fini avec les opposants.
Il nous parle aussi d'une pression vers les bas salaires, que les personnes peu formées devraient accepter un peu n'importe quel boulot pour pouvoir compléter leur revenu de base ou leur dividende social. Tout ça est quand même dans une optique très négative. Et le point qui revient quand même très régulièrement chez les opposants, c'est le retour de la femme au foyer. Certaines femmes travaillent à temps plein, mais beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. Ce serait plus facile de ne plus travailler du tout, de revenir au foyer, donc de ne plus avoir accès au marché de l'emploi, de se refermer dans une bulle familiale, et donc avec les conséquences qui pourraient être néfastes, d'isolement, de voilà, perte de contact avec le monde extérieur... Ça, c'est un argument qui revient quand même très fréquemment.
C'est quand même pas rien, toutes ces critiques. Est-ce que dans ces conditions, on arrive encore à défendre l'allocation universelle ?
Moi, je reste positive par rapport à cette idée parce que le nombre de familles monoparentales augmente. Prenons l'exemple d'une femme avec plusieurs enfants, ça peut être un homme et ses enfants aussi, qui reçoit un revenu de base... Je pense qu'elle va maintenir son emploi à temps partiel ou à temps plein et elle pourra vivre de manière plus confortable avec ses enfants. Donc, dans ce cas de figure-là, moi, je reste positive et je n'ai plus l'image de la femme qui a envie de rester au foyer. Mais je pense que de plus en plus de personnes se forment, reprennent des cours et principalement des femmes aussi. Et je trouve que garder cette idée de femme qui retourne au foyer, je trouve que c'est quand même une image très ancienne. Moi, ce n'est pas l'image que j'ai de la femme actuelle.
Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que l'allocation universelle ou une de ses variantes, c'est ce qui se rapproche le plus dans le monde concret de l'idéal du travail libéré de Marx, dont on parlait en début d'épisode ? En tout cas, ils ont au moins un autre point commun. C'est d'être souvent associé à l'idée de l'automatisation du monde du travail.
En effet, l'automatisation du travail, la robotisation, nous amène à penser qu'on va aller vers une raréfication du travail. Et c'est un point qui a été relevé par Georges-Louis Boucher dans son modèle, où il n'y aura peut-être plus du travail pour tout le monde, et donc il faut penser les choses autrement.
Bon, même si c'est bizarre de rapprocher Karl Marx et le très libéral Georges-Louis Boucher. L'automatisation des tâches, le découplage de la valeur économique du travail et du salaire, c'était déjà des idées que Marx imaginait dans son fragment sur les machines évoqué plus tôt et qui devaient, souvenez-vous, aboutir à la réalisation du travail libéré.
Dès que le travail a cessé d'être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse et doit cesser d'être sa mesure.
C'est un texte qui a une force comme ça, très, très prophétique.
Pourtant, cette prophétie de Marx date du 19e siècle. Or, depuis, l'automatisation des tâches n'a cessé de croître. Donc, logiquement, si Marx avait vu juste, le travail libéré, on devrait déjà y être, non ? Alors, où est-ce qu'on a raté quelque chose ?
Malheureusement, je crois que voilà une prophétie qui ne va pas se réaliser. En tout cas, pas comme Marx l'a pensé. Je vais vous dire pourquoi. Tout le texte de Marx est traversée par un implicite fondamental, qui est que le monde du travail, celui qui va être entièrement automatisé, est parfaitement séparé du monde de la vie privée, hors travail, comme si c'était cloisonné. Donc voilà, on aura ces automates merveilleux, et ben voilà, ils pourront nous dispenser du travail, et puis par ailleurs, tous ceux qui étaient jusque-là exploités n'auront plus besoin de travailler, et pourront vaquer à leurs activités diverses et variées. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait différent, parce qu'il n'y a précisément pas ce partage entre le monde du travail et le monde de l'existence courante. On voit bien que le numérique n'est pas cloisonné au monde du travail. Le jour où on arriverait à automatiser entièrement les tâches de travail, ce sera parce que toute la société aurait été soumise déjà à l'automatisation.
Ce qui cloche avec la prophétie de Marx, c'est que ce n'est pas seulement le travail qui a été automatisé, mais également tous les moments de loisirs. Et les loisirs, les vacances, dans le monde du travail aliéné qui est encore la norme aujourd'hui, c'est très important. Mais si on imagine que c'est le travail libéré, l'allocation universelle, tout ça, qui s'impose dans le futur, les vacances, ça se passe comment ?
Tu fais quoi pour les vacances, toi ?
Ah, je travaille à l'usine.
Oh, la chance ! Mais tu veux dire virtuellement, en fait, en télétravail ?
Mais non ! Non, je vais travailler dans une vraie usine.
Attends, mais c'est ce truc-là, comment ça s'appelle ? C'est un working park, là ? Où tu peux rejouer les conditions de travail de l'époque pendant une heure ?
Mais non ! Non, pas du tout ! Je te parle d'une vraie usine où il y a encore des vrais êtres humains qui sont exploités et tout.
Ça existe encore ?
Mais oui ! Il y a encore quelques pays au monde où ça existe.
Et comment t'as fait pour dégoter un plan pareil ? C'est genre une antiquité, ce plan vacances. Ça a dû coûter fortune.
Bah oui, carrément ! Ça fait des années que je rêve de savoir ce que ça fait, tu vois ? Le travail aliéné, tout ça. Et j'ai pu avoir le must. Je suis même pas sûre que tous les travailleurs soient majeurs dans l'usine, t'imagines ? L'exploitation à l'ancienne. Franchement, la vraie vie. Bon, et toi alors ?
Bon, moi, rien de spécial. Comme d'habitude, quoi, je vais faire un tube.
Eh, bah c'est super, non ? J'ai jamais fait, moi. Mais à l'époque, tout le monde jurait que par ça.
Ouais, ben, le problème, c'est que tout le monde l'a fait. En fait, c'est devenu hyper banal, quoi, hyper cheap comme vacances. Les paroles, c'est un ordinateur qui te propose. À partir de tes intérêts, tu vois, sur les réseaux sociaux, l'analyse des mots que t'as pu liker, tes rêves, t'as le correcteur de notes, hop, et je te jure, je chante, mais vraiment, mais comme un dieu, quoi. Et, ben, si, faudrait que t'écoutes. Ça m'est même arrivé une fois, la chanson, elle a fait un carton, quoi. Mais bon, juste pendant un jour, parce qu'après, bon, bah, y a tous les autres. Du coup, je crois que je préférerais vraiment suer à fond sur une vraie machine, tu vois, dans une usine authentique. Puis, je sais pas, tu vois, même avec un contremaître qui te menace avec le foie et tout, tu vois, contre qui tu puisses vraiment te révolter, tu vois.
Pourquoi t'écris pas ta révolte dans tes chansons ?
Et tout le monde le fait, en fait. Tu sais, avec le deep learning, maintenant, les algorithmes, ils te proposent des trucs hyper pointus en termes de révolte, quoi.
Bah, pourquoi tu fais pas une chanson sans passer par un algorithme ?
Attends, t'as déjà essayé de jouer de la guitare, vraiment, quoi ? T'as la corne, après, tu peux même te choper une tendinite, là, quand tu fais les barrés, là, tu vois ? Non, mais j'ai renoncé, quoi.
Moi, je t'avoue que j'ai déjà prévu 2 mois pour me remettre de ma semaine à l'usine, alors... On a des corps qui sont plus habitués à ça, donc... Faut que j'y aille mollo, moi aussi.
Ouais, t'as raison. En même temps... Je pourrais peut-être quand même réessayer de jouer de la guitare. Je demande à l'algo de pas corriger les fausses notes. Ça pourrait faire même un style, tu vois.
Ouais. Ça peut même être assez révolutionnaire, ça, comme idée, non ?
Pour le révolutionnaire, on repassera. Mais j'ai réuni mes enfants pour essayer de faire un tube. C'est pas encore ça. Peut-être qu'on aurait besoin d'un algorithme. Ou pas. Peut-être que c'est mieux sans, finalement. Peut-être qu'on peut voguer vers le sauvage. Je crois que c'est ce qu'on va faire au prochain épisode. Un épisode où l'on découvrira enfin le dernier scénario de Dominique Méda et où je finirai peut-être par trouver le futur métier de mes enfants. Allez, je prends les paris.
Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner. Mise en onde, Aurélien Lebourg. Sound design, Anne Lepère. Musique originale, Fièvre. Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton. Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard. Direction de production, Joël Kurtz. Avec, par ordre d'apparition, Marc Ougnadi, Natacha Dupont et Dominique Méda. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein et Vincent Tolomé. Coach Cœur, Maya Yentar. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de la CSR.
Et voilà, on va terminer de découvrir cette série de docu-fiction de Sébastien Dissonner, donc Curriculum Futurae, avec le quatrième épisode, Coach en mutation.
Le Centre Vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae.
N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Un podcast de Sébastien Dissonner à la recherche du travail de demain.
Monsieur Dissonner, vous avez 26 notifications non lues.
Ah, bah c'est ça de se déconnecter quelques jours.
Enregistrer message.
Chère conseillère du futur, j'ai de bonnes nouvelles. Je crois que mes enfants sont sur une piste.
Moi, je veux être aussi paléontologue.
Paléontologue ? C'est quoi paléontologue ?
Bah, c'est ceux qui collectionnent des os de dinosaures. Bah ouais, paléontologue, quoi.
Alors je sais, paléontologue, comme métier de l'avenir, vous allez penser que je me fiche un peu du monde, mais écoutez bien, en fait, c'est le point de départ d'un métier nouveau.
Mais si ton frère, il s'occupe des dinosaures, des autres dinosaures, toi tu ferais quoi?
Tu sais que j'ai vu dans un livre qu'on mettait des petits trucs pour faire une blague que c'est la vraie peau. Parce que c'est...
Au bout de la lettre, on fait de la blague, que c'est de la vraie peau, et après on met un truc de radio qui fait blablabla.
Mais c'est quoi? C'est les fabricants de faux dinosaures, ça?
Ouais.
Et ça sert à quoi comme métier?
Hein, juste pour faire peur aux gens, pour les soigner de leur roquet.
Donc, fabricants de faux dinosaures pour faire peur aux gens et faire passer leur roquet, il y a une utilité sociale, clairement.
La question des dinosaures, tu vois, elle est totalement intemporelle. Et donc...
Revenir aux grandes préoccupations intemporelles. Se réconcilier avec notre part sauvage. Utiliser des matériaux de récupération. Prendre soin. Ça ne vaut pas seulement pour le projet dinosaure de mes enfants. Ça sera aussi la coloration de l'avenir, selon cet épisode, beaucoup plus vert et teinté d'espoir, dans lequel je me reconnecte non seulement à ma conseillère du futur, mais aussi à la sociologue Dominique Méda, dont nous allons enfin pouvoir découvrir le troisième et dernier scénario.
Pour moi, le bon scénario, c'est celui que j'appelle de la reconversion écologique, c'est-à-dire on accepte d'ouvrir les yeux et de voir la grave crise écologique devant laquelle on se trouve et on bifurque radicalement en investissant des montants extrêmement élevés de financement dans la reconversion écologique pendant 20 ans. Hein. C'est-à-dire, en gros, on prend 20 ans à reconstruire une autre économie, une autre société. Et donc, on investit énormément dans, on sait bien ce qu'il faut faire, hein, la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, les transports en commun, le verdissement des processus industriels, l'agroécologie, etc., etc. Et là, on crée beaucoup d'emplois. Par exemple, pour la France, ce qu'on dit, c'est une étude récente de l'ADEME et du WWF qui nous disent qu'on pourrait créer à l'horizon 2022-2030 entre 600 000 et 2 millions d'emplois. Alors, est-ce que ça va être des emplois absolument passionnants, épanouissants, etc. ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça va être des emplois utiles. C'est-à-dire, on va reconstruire des bâtiments, les concevoir autrement. On va avoir un autre type d'agriculture. On sort de ce que David Graeber appelle les bullshit jobs. On sort des emplois radicalement inutiles, qui rapportent plein d'argent à ceux qui les font, mais qui détruisent la société. Et donc, je pense que ça, c'est un récit qui peut nous aider.
Ok, mais une fois qu'on a pris 20 ans pour reconvertir tous les bâtiments, etc., il reste encore du travail pour après ?
Alors, je pense que oui, on a fait une partie du boulot, mais on aura toujours besoin de construire des maisons. On aura de plus en plus besoin, à mon avis, de manger et de manger des produits qui auront été fabriqués sur place. C'est-à-dire, je pense que on va avoir, si on était malin, beaucoup d'emplois à créer dans l'agriculture.
Bifurquer radicalement, c'est ce que préconise Dominique Méda pour mettre en œuvre la reconversion écologique. Et si je bifurquais moi aussi dans ce podcast ? Et si je m'éloignais des spécialistes que j'ai interrogés jusque maintenant pour me rapprocher du local ? Alors pour questionner la reconversion écologique et savoir si c'est un secteur porteur d'avenir pour mes enfants, j'ai décidé d'interroger une amie qui est en pleine reconversion. Elle travaillait avant au Parlement européen. Je suis allé la voir là où elle travaille maintenant, dans un des derniers champs de Bruxelles.
On a quand même encore pas mal de broles sur le terrain. Donc on trie et on va récupérer une table pour après faire une station de lavage. Comme ça, on sera plus autonome sur le terrain et on pourra transformer les légumes sur place. Donc, par exemple, récolter les épinards, les laver et puis pour qu'ils soient directement prêts pour la vente. Donc ça, c'est de la boue. Ici, à gauche, on fait du compost. Là, il y a des oignons. Ici, il y a des fèves. C'est un engrais vert et ça donne des nutriments au sol.
Des fèves ?
Mm-hmm. Mais ici, par exemple, tu vois des choux kale. Donc ça, c'est quelque chose que tous les maraîchers font en hiver. Donc si tu veux, tu peux goûter.
Tu peux goûter une petite branche, une petite feuille.
Ouais, choux kale noir. Et donc, c'est beaucoup utilisé dans la cuisine toscane.
J'ai pas l'habitude de prendre directement comme ça les feuilles et de les manger sans les avoir cuites ou je sais pas.
Moi, je fais ça tout le temps. Mais bon, pendant l'été, j'arrête pas de manger tout le temps au champ. En hiver... Il n'y a que du chou et du céleri, donc ça limite un peu les dégâts. Et ici, c'est des bêtes. Des tomates, ça n'a absolument rien à voir au niveau du goût. C'est juste merveilleux. C'est quasiment une découverte sensuelle. Tu vois, c'est même pas juste la nourriture ou juste manger pour plus avoir faim. C'est un délice, quoi. C'est une fête.
Et là, on entend la boue... Je me disais que ça devait changer pas mal par rapport au couloir feutré du Parlement. Tu travaillais avant.
Oui, c'est vrai que je me sens très libérée de ne plus être confinée à l'intérieur d'un bureau ou même de l'énorme bâtiment du Parlement et d'être à l'extérieur. En fait, je trouve ça un énorme luxe. Même si parfois, pendant l'hiver, j'en suis arrivée à le regretter avec toute la boue et le froid et tout. Donc, c'est quand même aussi très fatigant physiquement. Mais il y a beaucoup de moments où j'apprécie tout simplement de voir le ciel au-dessus de ma tête et pas juste les néons. C'est quand même plus gai. Et puis, les rapports humains aussi sont plus doux, j'ai l'impression.
Pour le coup, en niveau de vie, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Je suppose que tu as dû diviser, je sais pas, par deux, par trois ton salaire.
Oh, c'est plutôt par trois. Hein. Ouais. Ça m'a pris plusieurs années quand même pour m'adapter. Et aussi, après, faut voir aussi jusqu'à quel point ça peut encore descendre. Donc c'est sûr qu'à un certain moment, si ça descend encore beaucoup plus que maintenant... Ça pourrait devenir un problème. Donc, pour l'instant, ça va encore. Et j'ai la chance, du coup, d'avoir travaillé au Parlement avant. Donc, j'ai un peu de l'argent de côté. Donc, c'est pas la même chose d'être pauvre avec un compte d'épargne que d'être pauvre sans compte d'épargne. Donc, il y a ça déjà. Et après, c'est sûr, il y a aussi toute une démarche zéro déchet qui va avec. J'ai quitté mon appartement qui me coûtait 900 euros par mois. Dans la coloc, on fait de la récupération de légumes dans un marché bio. Donc c'est gratuit. Et puis je ramène pas mal de légumes du potager. J'achète pas grand chose, en fait, en fin de compte. Les vêtements, je les achète en seconde main. Donc oui, c'est tout a changé. Mais j'ai plus de temps. J'ai plus de temps pour moi. Donc c'est plus facile aussi de, par exemple, réparer un pantalon ou quelque chose si tu as le temps. Que pendant mon temps au Parlement, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Et puis, il y a aussi une frustration qui est créée comme ça par l'absence de vie en dehors du travail, qui fait que bah, tu consommes plus et tu as plus besoin de dépenser de l'argent pour aller dans un restaurant cher ou acheter une belle robe. Ou... Et en plus, j'étais épuisée parce que c'est un travail... on avait, je ne sais pas, peut-être 500 mails dans la boîte mail principale. Puis moi, j'avais encore 300 mails à côté. Le téléphone, il sonnait toutes les 1 minute et demie. Donc, t'es juste hyper stressée. Donc, moi, physiquement et mentalement, au bout d'un moment, j'ai juste lâché. Je n'étais plus capable de continuer. Et du coup, la volonté d'arrêter, c'est aussi que je suis arrivée au bout vraiment de ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai arrêté parce que je pouvais plus. Donc, j'étais obligée de changer des choses parce que... Oui, j'aurais pas pu continuer comme ça, en fait.
Est-ce qu'on fait des burn-out dans les champs?
Et oui, malheureusement, je pense que la réponse est oui.
C'est possible aussi, c'est pas juste.
Ah oui, en plus, c'est... Oui, ça, c'est la partie moins chouette, c'est que ce n'est pas forcément une très bonne perspective que j'ai choisie là. Je suis prête à relever le défi, mais dans la moyenne, quand même, les maraîchers travaillent autour de 60 heures semaine pour un revenu autour de 900 euros. Donc la réalité des métiers de la terre est absolument problématique.
Tout à l'heure, je vous entendais parler que pour la récolte des épinards, par exemple, c'était tellement long. Il y avait des machines qui pouvaient peut-être aider à gagner du temps. Et du coup, si on veut gagner sa vie vraiment avec ça, est-ce qu'il y a pas la tentation simplement d'aller acheter une machine ou d'aller chercher un autre type d'engrais plus, entre guillemets, efficace et chimique? Et est-ce qu'il n'y a pas une tension parfois, du coup, entre les deux qui peuvent s'installer?
Oui, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est du maraîchage bio-intensif, donc sur petite surface. Donc la plupart des travaux est faite à la main, donc on travaille le sol avec des outils qui sont manuels. Mais bien sûr, il y a aussi des machines qui sont quand même encore compatibles, mais ça dépend aussi un peu de toi, à quel point tu es idéologique ou pas par rapport à ça. Par exemple, la machine à récolter les épinards, c'est un tout petit outil qui fonctionne avec une visseuse, tu vois. Donc, ok, ça utilise un petit peu d'électricité, mais je pense que par rapport au travail que tu économises, ça vaut le coup. Mais par contre, comme tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, c'est difficile de faire des investissements ou les investissements qu'il faudrait pour rendre le travail plus facile et efficace. En fait, le mieux, ce serait d'avoir des parrainages, tu vois, entre des gens qui travaillent au Parlement, par exemple, et des maraîchers, voilà. Et qu'ils divisent leur salaire, tu vois. Donc, le maraîcher, il gagnerait plus. Celui qui travaille au Parlement, il gagnerait un peu moins. Et les deux pourraient travailler en 40 heures ou même 35. Allez, soyons optimistes.
Avec ton ancien toi, alors, tu pourrais faire un parrainage un peu...
Oui, je vais essayer de voyager dans le temps et puis essayer de convaincre la Fiona d'avant de me donner des sous. Je ne suis pas sûre qu'elle sera d'accord. Hein. Tu sais, ça rend plus dur de vivre dans un environnement plus hostile. Donc, je me suis radoucie avec les collègues ici et les épinards.
Mais en attendant que la technologie soit mûre pour mettre en place cette solution de parrainage par voyage dans le temps proposée par Fiona, elle m'a parlé d'une solution beaucoup plus concrète qu'on peut mettre en place dès maintenant.
Plus les gens soient prêts à mettre plus d'argent dans les légumes, dans les bons légumes, pour le coût que ça représente et le travail que ça représente.
Je n'ai pas eu à aller très loin pour trouver des gens qui essayent de rémunérer correctement les petits producteurs. À quelques rues de chez moi, là où il m'arrive de faire mes courses, dans la coopérative Bloom à Forêt.
Alors, Bloom, donc c'est effectivement une coopérative à finalité sociale, c'est une épicerie.
Christine Stanzik, une des fondatrices de cette coopérative pas comme les autres.
C'est une coopérative d'acheteurs, donc on est tous propriétaires du magasin et on est tous investis financièrement dans le projet. Voilà. Et notre objectif, c'est de rendre les produits biologiques plus accessibles, donc moins chers. Et c'est aussi une alternative à l'économie de marché. Notre objectif, ce n'est pas le profit, c'est de vendre des produits qui sont de bonne qualité, de payer convenablement les personnes à qui on les achète, c'est-à-dire des petits producteurs. Enfin, pour une partie, hein, je veux dire, on achète aussi à des grossistes parce qu'on veut proposer une large gamme de produits. En fait, on veut être une alternative au supermarché. Alors, donc, on demande donc, un engagement financier des coopérateurs sous forme de cotisation. Ils achètent une part aussi, donc ce qui les rend vraiment actionnaires, entre guillemets. On ne dit pas actionnaires, on dit coopérateurs, mais bon, voilà, c'est comme de l'actionnariat. Et puis, on leur demande de payer une cotisation mensuelle. Elle est de 10 euros par adulte, par mois. Et elle est censée couvrir une grosse partie de nos coûts fixes, donc les loyers, salaires, les charges, etc. Et donc, cette partie de nos coûts fixes étant couverte par la cotisation, ça nous permet de prendre des marges beaucoup plus basses sur ce qu'on vend. Voilà, c'est ça l'avantage du principe. Quoi. De la finalité sociale, chez nous, c'est aussi le respect des producteurs. C'est-à-dire que nous, on achète à des petits producteurs, on ne va jamais marchander un prix aux producteurs. On ne va jamais faire pression sur eux pour faire baisser les prix, alors que c'est vrai que parfois, ben, on constate que les légumes de Groentelaar, ils sont plus chers que, je ne sais pas moi, par exemple, les carottes qu'on va vendre au Colruyt, par exemple. Et donc, c'est aussi une finalité sociale, c'est respecter une certaine forme d'agriculture, c'est respecter les personnes qui font en sorte que tu as dans ton assiette des légumes de bonne qualité. Enfin, je parle des légumes, mais ça peut être aussi le fromage, la viande, enfin voilà, d'autres choses, la bière. Et donc, voilà.
J'ai parlé à Dominique Méda du cas de mon amie, Fiona, et des difficultés qu'elle a dans les champs à faire sa reconversion écologique.
Ce que vous racontez, le fait que votre amie gagne très peu d'argent, c'est aussi parce qu'elle est encore coincée dans une sorte de niche, là. Et j'aime bien la pensée d'un sociologue qui vient de décéder, qui s'appelle Eric Olin-Wright, qui nous dit que son dernier livre s'appelle « Stratégie anticapitaliste pour le 21e siècle ». Et il explique comment il faut peut-être ne pas attendre le grand soir, mais s'installer justement dans les interstices à l'intérieur du système pour changer le système de l'intérieur. Je pense que c'est ce qui est en train de faire votre amie. Alors là, elle gagne pas beaucoup. Peut-être que lorsque, par exemple, on aura reconverti toutes nos aides, qui vont souvent vers des grosses exploitations utilisant des pesticides très mécanisés, etc. Quand on aura reconverti ces aides vers le bio, le maraîchage, elle gagnera plus, parce qu'il faut évidemment soutenir ces personnes-là. Et puis, peut-être qu'à un moment, c'est elle qui sera dans la majorité, hein, quand on aura arrêté justement tous les autres types d'exploitations.
Eh bien, j'espère pour mon amie Fiona que ces temps ne tarderont pas trop à arriver.
Et tu sais que le point de départ de ce podcast, c'était aussi de se demander donc ça sera quoi le travail dans 20 ans quand Melville et Marin seront en âge de travailler. Tu crois que le maraîchage, c'est vers ça qu'ils devraient s'orienter c'est l'avenir, tu penses, pour eux?
Je ne sais pas si je le recommanderais vraiment comme métier, parce que c'est quand même assez dur physiquement et financièrement, et je ne pense pas que ça va... Enfin, j'espère que ça va s'améliorer avec la conscience écologique qui va grandir.
Le problème, c'est que l'argent est déconnecté de ce que valent vraiment les choses.
Peut-être on pourrait inventer une monnaie épinard. Du coup, l'épinard, il gagnerait en valeur. Donc, comme il faudrait qu'il soit frais, il faudrait tout le temps récolter des épinards. Donc, on pourrait devenir comme la banque centrale épinardesque de Bruxelles.
Je sens que tu as des plans pour faire monter le cours de l'épinard.
Oui, j'y travaille.
C'est aussi une valeur qui se dévalue très vite, je suppose, du coup, l'épinard. Il faut la consommer.
Oui, mais du coup, ça ferait fleurir l'économie locale parce qu'il faut le dépenser vite, parce que sinon, il n'a plus de valeur. Et donc, l'épinard, ce serait vraiment une monnaie qui expirerait très vite et qui encouragerait très fortement la consommation, enfin la dépense. Tu ne pourrais pas être un capitaliste de l'épinard.
Tu penses que c'est donc une monnaie verte anticapitaliste, quoi, l'épinard?
Oui, je pense que peut-être la prochaine fois, on ferait une émission là-dessus.
Dans 20 ans.
Oui, peut-être dans 20 ans, ce serait déjà la monnaie belge par excellence. Il pourrait peut-être devenir banquier vert, du coup. Tu vois, ça c'est...
Ok, c'est un métier d'avenir.
Je suis heureuse d'avoir pu t'aider à trouver une piste pour,
Merci.
Pour les deux.
Merci bien, je leur dirai ce soir.
Ce que j'ai essayé de faire le soir même.
Dites, je voulais vous dire un truc. Vous savez ce que c'est un banquier?
C'est une fête d'amour.
Un banquier?
Un banquet?
Ah non, ça c'est le banquet. Un banquier, c'est un monsieur ou une dame qui travaille dans une banque.
C'est où il y a beaucoup de neige et qu'on peut skier.
Non, c'est pas la banquise.
Entre fête d'amour et piste de ski, ça n'a pas l'air d'être encore hyper concret pour eux.
Mais ça n'a pas entamé mon enthousiasme parce que j'ai l'impression d'être arrivé au bout de ma quête. Je crois que je vais pouvoir faire mon rapport final à ma conseillère du futur.
Enregistré, métier du futur 2, marin et...
Cher conseillère du futur,
Dissonner.
Je crois que j'ai trouvé ce que mes enfants pourraient faire plus tard.
Bravo, monsieur Dissonner.
Banquier vert.
Vous avez trouvé un métier du futur pour Marin et Melville Dissonner.
Oui, c'est une amie qui a eu l'idée. Alors, je vous explique. Hein. Donc, dans le futur, l'épinard, c'est une monnaie fondante. Comme ça, les gens devront la dépenser rapidement, localement et sans pouvoir thésauriser.
Bon,
donc, fini le capitalisme.
Je vous ai demandé d'être là aujourd'hui.
Bien sûr, j'ai immédiatement annoncé la bonne nouvelle à mes amis.
Ah, ce seraient des vrais épinards.
Ouais, je pense que ce seraient des vrais épinards.
Pourquoi épinards et pas carottes ou pommes de terre?
Je sais pas, c'est le billet vert un peu. Enfin,
oh. Mais les fans des carottes, c'est vert aussi.
Mais voilà, comme d'habitude, avec mes amis, il y a toujours quelque chose qui va pas.
Ça me semblait bien, enfin, c'est toute une discussion, notamment avec mon amie Fiona dans les champs.
Elle fait dans les épinards, peut-être.
Oui, la permaculture.
Bah oui, c'est comme
là.
Ça.
Ah, voilà,
c'est
voilà,
comme ça. C'est
sûr que les Belges qui adorent épargner, mettre des feuilles d'épinards sous ton matelas, ça va pas le faire. Hein.
Et puis, il y a eu un argument.
Il faut les mettre au frigo, alors.
Qui a détruit tout mon plan.
Ah, les épinards congelés, je n'ai pas pensé à ça. Les épinards congelés...
Ah ouais, ouais, tu peux thésauriser, là, tu vois, tu les mets dans ton deep freezer, là, ton frigo, tu
vois,
banquier,
vrai,
puis ils disent ça va fondre. Ouais. En même temps, t'es banquier, ça thésaurise.
C'est nul.
C'est bizarre, ça.
Mais bon, bah alors si... Moi,
et voilà, tout était à refaire. Moi, je commence à en avoir marre. Hein.
Se connecter à Curriculum Futurae.
Métier du futur enregistré. Banquier vert. Métier effacé. Monsieur Dissonner, n'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Mes amis, j'avais jamais trop osé leur dire que je continuais à m'entretenir régulièrement avec ma conseillère du futur. Après tout, c'était censé être juste un rêve, non ? J'ai fini par leur avouer et... Florence pense que je devrais me détendre. Sibylle, elle, pense qu'il faut guérir le mal par le mal. Je dois exorciser ce mauvais rêve en allant voir à quoi ressemble une conseillère de métier du futur en vrai.
Bah, tu pourrais déjà aller chez... C'était chez Actiris quand t'étais ?
C'était l'Office pour l'emploi du futur. Mais
Et ce qui ressemble le plus à ce poste dans la vraie vie, c'est peut-être celui qu'occupe Cathy Van Remortereux en tant que directrice du marché de l'emploi et de l'inclusion chez Actiris. Actiris qui est l'Office pour l'emploi du présent, si l'on veut, à Bruxelles.
Mais je crois le plus mauvais conseiller, c'est la peur ou l'anxiété. L'humain existe depuis les siècles et il continuera à exister et trouver son chemin.
J'apprends une chose intéressante. On étudie bien l'avenir du travail au sein même de cette très réelle institution bruxelloise.
Il n'y a jamais eu autant d'études prospectives qu'aujourd'hui sur les métiers de demain. Évidemment, ça raconte beaucoup sur notre époque, les incertitudes et les questionnements qu'on se pose. Alors, c'est sûr qu'il y a des jobs qui vont disparaître, mais il y a aussi d'autant plus de nouveaux métiers qui seront créés. En région bruxelloise, il y aura 100 et 2000 nouveaux jobs qui vont être créés. Par contre, on va perdre 40 000 jobs. Quand on va regarder dans quel emploi il y a un recul, là, c'est sûr et certain qu'on voit un recul dans les fonctions de caissier, les employés administratifs et les ouvriers les moins qualifiés. 80% de la croissance des emplois se trouve dans trois secteurs. C'est d'abord le secteur des soins de santé, le secteur de l'éducation et les services aux personnes. Mais ce qui est une certitude absolue, c'est la digitalisation du travail sur Bruxelles. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui feront leur apparition qu'on ne connaît même pas aujourd'hui.
Donc, selon Cathy Van Remortereux, parmi les métiers les plus porteurs d'avenir, il y a les métiers du numérique, ça c'était attendu, mais plus surprenant, il y a aussi les métiers du soin. Et ça, c'est plutôt une belle surprise.
On croit qu'on va aller vers des gens qui vont combiner différents statuts de job, salariés, indépendants, qui vont mélanger aussi, par exemple, des tâches privées avec des professionnels. Et par exemple, ça pourrait être tout à fait envisageable que la personne, le matin, elle s'occupe de ses enfants et puis elle cuisine certains plats qu'elle offre à disposition de la société pour l'après-midi faire des traductions en utilisant des outils existants, mais en les perfectionnant avec les capacités humaines dont les outils n'ont pas encore.
Ça vous rappelle rien, vous ? L'utopie du travail libéré qu'on trouvait chez Marx.
M'occuper d'élevage le soir, m'adonner à la critique, m'adonner à la critique, après le repas du soir.
Sacré Marx, toujours un coup d'avance celui-là. Après tout, peut-être que Marin et Melville, ils chanteront le Roi Lion le matin, ils seront charbonniers l'après-midi, ils fabriqueront des piscines de l'aile le soir et ils font des dinosaures pour faire peur la nuit.
Monsieur Dissonnaire ?
Je crois que l'exorcisme recommandé par Sibylle, aller chez Actiris, ça a fonctionné. Je n'ai plus besoin d'elle maintenant.
Souhaitez-vous désinstaller définitivement l'application Curriculum Futurae de votre smartphone ?
Oui, désinstaller définitivement.
Bonne chance à Melville et Marin.
Alors, parmi tous les scénarios évoqués dans ce podcast, l'ubérisation de la société, l'automatisation généralisée du travail, l'allocation universelle, la reconversion écologique, lequel, à votre avis, a le plus de chances de se réaliser ? En ce qui me concerne, si je devais faire un pronostic, je dirais un peu de tous ces scénarios à la fois. Réponse de Normand, vous allez me dire, bah, peut-être bien que oui, et peut-être bien que non, parce que je ne crois pas que le futur soit fait de tendances qui s'excluent les unes les autres, mais plutôt de forces, parfois contraires, qui luttent et qui cohabitent. Et si alors, pour finir ce podcast, je réunissais mes amis pour tenter une ultime projection dans l'avenir du travail ? Un avenir complexe, où des tendances très diverses coexistent.
Je pense effectivement que l'être humain est au bord de très grosses mutations génétiques programmées. Et je pense par exemple que devenir des êtres humains vers de terre, parcourir le sous-sol et transformer la terre en humus, ça je pense que ça fait partie d'un futur potentiel de l'humain.
Et si on doit survivre donc, dans les océans, au début, on ferait comment dire, donc une espèce de retour à l'océan, mais progressif. On y passerait d'abord, je ne sais pas, une journée, et puis une semaine. Et l'idée, ce serait vraiment de devenir autonome et d'avoir des tribus océanes, comme ça, qui pourraient s'inspirer des baleines à bosse ou tout ça, peut-être en apprenant aussi leurs chants, hein, qui sont magnifiques. On pourrait apprendre à chanter avec elles, parce qu'il y a un langage, en fait.
Un des métiers du futur, c'est le contraire d'épouvantail. C'est des personnes qui resteraient à des endroits stratégiques pour venir apprendre le langage des oiseaux, ou bien elles pourraient se plonger dans la mer et certains poissons s'approcheraient de cette personne qui apprendrait à communiquer ou à nager comme les poissons. On peut aller plus loin, à communiquer avec l'esprit des plantes.
Tu vois, ce serait pas mal qu'une personne qui aiderait chacun d'entre nous à muter vers ce qu'il a envie de muter. Si tu as envie de devenir humain vers de terre, ok, il t'aide. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être vers de terre. Quoi. Tu vois quelqu'un qui t'aide à réaliser ton rêve de devenir moitié humaine, moitié plante, par exemple.
Coach de talent, c'était
quoi ? Oui, c'est ça.
Coach en mutation.
Coach en mutation, ouais.
Coach en mutation. Je ne sais pas si ce métier existera vraiment à l'avenir et je ne suis pas sûr que ce soit la formation à laquelle il faille courir inscrire Melville et Marin ou vos enfants dans le futur. Mais je crois qu'en tant que symbole, coach en mutation, c'est quelque chose dont on aurait toutes et tous besoin pour nous accompagner dans les changements du travail à l'avenir.
« C'était Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner. Mise en onde, Aurélien Lebourg. Sound design, Anne Lepère. Musique originale, Fièvre. Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet, Arnaud Martin, et Dieter Godz. Production déléguée, Cyril Bibas, et Marc Jotard. Direction de production, Joël Kurz. Avec, par ordre d'apparition, Dominique Méda, Fiona Grao, Christine Stenzik, et Ethivan Remourtereux. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein, et Vincent Tolomé. Coach Cœur, Maya Yantar. Coach Design Fiction, Flora Six. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de la CSR. Amelville et Marin, qui, naturellement, déjoueront tous les pronostics.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à la CSR qui nous a permis de découvrir cette série. La CSR, c'est l'atelier de création radiophonique de Belgique. Voilà, et donc qui nous sommes partenaires pour ces émissions. Rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles créations sonores et radiophoniques à découvrir. À bientôt.